Chapitre 68. Les lamelles en PVC se balancent derrière Saga lorsqu'elle retourne dans l'atelier et descend la rampe de chargement. Des larves de mouches blanches se déplacent dans l'obscurité autour du siphon de sol. Elle observe les deux portes. Puis se dirige vers la plus éloignée, celle qui mène à la maison. Une plaque métallique rainurée recouvre une partie du sol. Quand elle marche dessus, l'acoustique de ses pas résonne étrangement au-dessus du vide. Saga enjambe une caisse à outils, s'approche de la porte noire et respire une odeur de goudron. Il ne lui reste plus que 7 minutes avant le coup de fil de Karl Ajuna. Elle perçoit un bruit léger de l'autre côté du mur. Elle essuie sa main moite sur son pantalon, l'ouvre et la referme plusieurs fois pour assouplir ses doigts. Puis, elle saisit son pistolet. Après avoir pris une grande inspiration, elle appuie sur la clenche, ouvre la porte et pénètre dans un passage sombre dont le plancher en mauvais état est recouvert d'un tapis en coton. Elle aurait dû commencer par contacter Juna. Pourquoi est-elle si en colère? Elle ne devrait pas faire ça seule, c'est beaucoup trop dangereux. Saga repense à la poupée russe qui la fixait de ses yeux immobiles et imagine que les autres poupées à l'intérieur avaient le même regard. Elle allume la lampe de poche de Karl et se fige devant un trou dans le lambris, probablement découpé à la tronçonneuse. Le bord des planches est déchiqueté. Il ouvre sur une petite cuisine basse de plafond, avec une fenêtre à meneaux qui donne sur la cour où se dresse un mât de la Saint-Jean. Elle regarde un instant en direction de la porte d'entrée, puis baisse son arme. L'endroit sent les ordures et la nourriture avariée. Le sol de la cuisine est couvert de boîtes de conserve vides, de raviolis, de saucisses, de goulash, de thon, de maïs, de boulettes de poisson, de choucroute. Une lampe avec un abat-jour en plastique jaune vif est suspendue au plafond. Sur le plateau en stratifié gris de la table à manger est posée une boîte de haricots ouverte à côté d'un livre sur les algorithmes. Par terre, sous le radiateur, Saga découvre une photo de Juna et une autre déchirée de Margot. Dans un coin de l'évier, elle aperçoit une hache ensanglantée. Des carreaux de faïence brun tapissent le mur au-dessus de la cuisinière électrique. Elle tend la main et sent qu'une des plaques dégage encore de la chaleur. Son cœur s'emballe aussitôt. Les conserves qui jonchent le sol s'entrechoquent lorsqu'elle traverse la cuisine et se dirige vers un petit couloir. Elle continue jusqu'à une salle de bain et dirige le faisceau de sa lampe de poche à l'intérieur. Le sol, les murs, l'évier et les toilettes sont noirs de crasse. Saga sent un courant d'air froid lui caresser les mollets et se retourne rapidement, vise le couloir avec son arme, puis la porte d'entrée et le trou béant dans le lambris. Rien. Tout est silencieux et immobile. Elle se retourne, pose son doigt sur la détente et pénètre dans la chambre à coucher. Le store est baissé et la table de nuit est recouverte d'une couche de poussière. Elle aperçoit son propre reflet dans une tenture murale encadrée. Le lit est fait. Quelques mouches mortes gisent sur le couvre-lit. La porte de l'armoire est entrouverte. Sur le rebord de la fenêtre, une guêpe desséchée se met à frémir sous l'effet d'un mouvement d'air. Saga lève le regard vers la tapisserie et l'adrénaline fuse dans son corps. Un frisson glacé la saisit. Dans l'embrasure de la porte, derrière elle, se tient Mara. Une petite silhouette terne, aux cheveux cendrés et au visage sale. Saga se jette sur le côté, se retourne et tire. Mais Mara a déjà disparu dans le couloir. Ses pas rapides claquent sur le sol. Saga se lance à sa poursuite, fait feu de nouveau, mais elle est trop lente. La balle percute le montant de la porte de la cuisine, des copeaux de bois et de la poussière giclent. Elle court vers l'entrée et entend les boîtes de conserve s'entrechoquer sur le sol de la cuisine. Elle pointe son arme vers la porte au moment où Mara disparaît par l'ouverture sciée dans le lambris. Un pistolet rouge brille dans sa main. Saga se fraye rapidement un chemin entre les boîtes de conserve et entend la porte goudronnée s'ouvrir avec fracas. Elle s'engouffre à son tour dans l'ouverture et surgit dans le couloir au moment où la porte noire se referme. Le plancher plie sous son poids. Elle tire 3 balles à travers la porte, entend les pas de Mara résonner sur la grande plaque métallique de l'atelier et se précipite dans sa direction. Mara a presque atteint le quai de chargement. Saga songe qu'elle devrait crier qu'elle est officier de police, demander à Mara de s'immobiliser et de poser son arme, mais elle ne le fait pas. Mara disparaît derrière un gros bloc cylindre et fait feu, mais Saga a le temps de se jeter sur le côté. Elle se cogne la tempe contre une boîte à outils, rampe derrière un baril en plastique contenant de l'hydroxyde de sodium et renverse accidentellement un seau rempli de sang moisi. Celui-ci se répand sur le sol, s'écoule dans les interstices jusqu'à la plaque de métal. La puanteur est atroce. Saga glisse sur le côté et se relève, son pistolet toujours pointé vers la jeune femme. Mara est à présent sur le quai de chargement. Voyant que le viseur de son arme tremble, Saga maintient son bras avec la main gauche. Elle essaie de trouver une ligne de tir, mais la poulie suspendue la gêne. Elle avance en diagonale sur le sol collant, distingue le pied droit de Mara dans l'obscurité et tire. La balle heurte la rambarde métallique du quai et ricoche dans l'atelier. Mara progresse maintenant à quatre pattes. Saga vise entre ses omoplates et fait feu à nouveau. La balle atteint son épaule. Mara lâche son arme, mais elle est déjà de l'autre côté du rideau en PVC. Saga enchaîne les tirs et entend les bruits des balles traverser le plastique épais. Les lamelles se balancent. Elle court droit devant elle et monte sur la rampe. Elle essaie d'interpréter le mouvement derrière le rideau. Une ombre rapide comme l'éclair traverse le sol en béton et disparaît par la porte métallique ouverte de la salle de stockage. Saga se glisse entre les lamelles et entend les pas rapides de Mara dans le grand local. Sans hésiter, elle passe la porte métallique et balaie la pièce du regard. La poupée russe s'est renversée sur le côté et la regarde fixement. Saga pointe son Glock vers les piles de palettes au centre de la pièce. Ici, il n'y a nulle part où se cacher, pas d'autre issue. Mara est piégée. Elle approche lentement des palettes, en tenant fermement son arme pointée devant elle. Elle s'apprête à attaquer, au moment où la porte en acier se referme derrière elle dans un grand claquement. Elle est prisonnière. Son pouls accélère au point de gronder dans ses oreilles. Elle continue d'avancer prudemment, contourne les palettes. Il n'y a personne. Saga parcourt la pièce du regard, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Elle a entendu les pas de Mara, l'a vue disparaître par la porte. Elle était juste derrière elle, et Saga est certaine d'avoir sécurisé les deux côtés de l'entrepôt. Il n'y a rien d'autre qu'un sol et de hauts murs lisses. Aucune porte, aucune trappe dans le sol, aucun endroit où se cacher. Elle contourne les palettes et regarde à nouveau autour d'elle. C'est incompréhensible. Mara a dû grimper au-dessus de la porte et se tenir en équilibre sur l'encadrement. Saga essaie de respirer plus lentement, s'essuie la bouche avec son avant-bras. Dans une minute, Carl va appeler Juna. Elle lève les yeux. Sous le plafond, à une douzaine de mètres de hauteur, elle aperçoit une rangée de vitres recouvertes d'énormes toiles d'araignées qui ressemblent à du tulle crasseux. Saga arrange son pistolet et s'approche des piles de palettes. Une serviette sale est étalée au sol. À côté d'une veste roulée en boule, repose une bouteille d'eau. C'est ici que dort Mara. Saga se souvient des notes du psychologue expliquant qu'elle refusait de dormir ailleurs que par terre. Dans un seau en plastique, gisent des araignées mortes, aux pattes recourbées. Un vaste réseau de toiles brille entre les planches et les blocs de palettes. Certaines sont blanches de poussière. Saga s'agenouille, tend son bras entre les palettes et atteint une boîte de biscuits aux épices en métal blanc et rouge. Lorsqu'elle la sort, les toiles d'araignée se déchirent dans un petit craquement. Elle sursaute quand elle entend une détonation au loin. Elle regarde la porte en acier massif, fermée par une épaisse barre transversale à l'extérieur.